Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Jérémy Besset.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Orléans. C'est en effet dans cette ville du centre de la France, sur les bords de Loire, que nous sommes aujourd'hui, à l'occasion du Parlement des écrivaines francophones qui a vu le jour ici en 2018 et qui cette année s'inscrit dans la manifestation Les Voix d'Orléans. 3 jours de rencontres donc, qui réunissent de nombreuses écrivaines représentant les 5 continents, comme en témoignent nos invités qui sont venus des Caraïbes, par exemple. Bonjour Gisèle Pinault.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui installée en Guadeloupe. À vos côtés, une autre ilienne au sud-est de l'Afrique, Michèle Racotesson, originaire de Madagascar. Bonjour.
Bonjour.
Sans oublier la méditerranéenne, Fawzia Zouhari, née en Tunisie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes précisément à l'origine de ce Parlement, Fawzia, qui rassemble à ce jour plus d'une centaine de membres. Mais ce n'est pas seulement un collectif, c'est aussi une association qui a des objectifs très concrets. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler lesquels, Fawzia Zouhari ?
Alors, le Parlement des écrivaines francophones, c'est à la fois une association, une plateforme, un espace de pensée et d'écriture, en fait. Donc, effectivement, on l'a lancé en 2018. La ville d'Orléans a dit oui, elle a pris tout de suite. Donc, on a posé nos bagages ici, de tous les continents, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'il y a une centaine, plus que 100 écrivaines, et qui viennent des 4 coins du monde. Et donc, notre but est très simple, c'est créer un réseau de solidarité entre les écrivaines, et mettre en exergue leur œuvre. Deuxièmement, c'est aussi une façon de soutenir et tout ce qui est en langue française. Donc c'est une construction en partie de l'espace francophone, mais c'est surtout être là pour la cause des femmes d'une façon générale. C'est-à-dire que nous sommes là pour une parole qui puisse dire le monde, l'observer à partir d'un point de vue féminin et pour dire tout ce que les femmes ont subi, subissent, mais être aussi dans l'espoir pour que leurs conditions changent. Et vous comprenez bien que dans le contexte actuel, c'est quand même assez important.
Alors Gisèle Pinault, souvent quand on écrit, on est un peu seul, loin des autres. Vous, par exemple, donc vous vivez en Guadeloupe. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez voulu rejoindre ce Parlement des écrivaines francophones ?
Tout à fait. J'ai été très honorée et très heureuse de recevoir l'appel de Fawzia Zouhari lorsqu'elle m'a invitée il y a 3 ans de cela à venir rejoindre le Parlement des femmes, des écrivaines francophones. Ça me permet bien sûr de sortir de ma bulle de solitude. Je suis de tempérament toujours un peu repliée sur moi-même, un peu isolée, et c'est une respiration, c'est un moyen pour moi d'entendre, de me raccrocher au monde et d'entendre les voix des femmes, de toutes ces femmes. Je suis en solidarité bien sûr et en sororité également avec toutes ces femmes. J'ai besoin d'entendre leur voix, de connaître leur actualité, de les suivre un petit peu partout. Et vraiment le Parlement me permet d'être en lien avec toutes ces voix, avec toutes ces femmes, avec toutes ces histoires, avec toutes ces tragédies aussi, bien sûr, qui sont là aujourd'hui dans notre monde.
Oui, parce que j'imagine que les unes et les autres, vous vous lisiez. En même temps, vous ne vous connaissiez pas forcément, ce qui est l'occasion aussi ici, et de découvrir de nouvelles voix qui peut-être sont un peu mises sous silence dans leur pays. On en parlera. Et vous, Michèle Racotesson, qui êtes retournée vivre à Madagascar après votre carrière professionnelle à RFI, et les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent vont sans doute reconnaître votre voix. Vous avez toujours de toute façon fait la promotion des textes, de leur circulation. Qu'est-ce que ça représente ce Parlement pour vous ?
Je reprendrai d'abord bonjour à tous les auditeurs parce que j'ai un souvenir fabuleux de RFI. Ça a été, je crois, les meilleures années de ma vie professionnelle parce que j'avais géré le concours de nouvelles, les auditeurs. Et ma fierté, c'est qu'il y a maintenant des jeunes écrivains dont j'ai vu les premières nouvelles qui sont devenues des grands. Il y en a qu'un que je cite, c'est Kenny Alem Chrodo, Jean-Luc Larmanen. Et quand Fawzia Zouhari m'a appelé, j'ai dit waouh, j'ai foncé. Je me suis pas posé la moindre question parce que c'était la continuité de toute une vie. Parce qu'il faut dire que dans les années 70, je ne suis pas très jeune, hein, j'étais coiffée à la Angela Davis. Et c'était mon repère. Enfin, ma mère a failli s'évanouir quand elle m'a vue arriver avec les cheveux Angela Davis, mais bon. Donc j'ai fait partie quelque part des premières féministes à Madagascar. Et puis après, bon, j'ai continué. Et puis après RFI, le concours de nouvelles, c'était les auteurs du monde entier. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce moment-là. Et donc j'ai repéré des femmes. Et là, j'ai dit, c'est une continuité du travail. Et je me suis dit, OK. Parce que, comme Gisèle, je me suis sentie un peu au bout du monde. Mais vraiment. Que j'avais vécu dans un milieu intellectuel très poussé, très fort, très black. C'est comme ça qu'on le dit, très africain. Et là-bas, c'était un peu loin. Et là, vraiment, merci Fawzia de m'avoir appelée. J'ai foncé, mais alors je me suis posé aucune question.
Ce que j'entends avec vous trois, c'est que le Parlement des écrivaines francophones, c'est aussi un lieu qui, d'une certaine façon, légitime le droit d'être écrivain quand on est une femme, parce qu'on a l'impression peut-être que c'est un droit qui n'est toujours pas acquis partout dans le monde. Qu'en pensez-vous, Fawzia ?
Effectivement, il y a des pays dans lesquels écrire pour une femme est quelque chose d'impossible. Il y a des pays où dire « je » dans un livre est une façon de trahir le clan. Il y a des pays où on est opprimé parce qu'une femme écrit. Deuxièmement, dans le monde entier maintenant, une écrivaine, c'est souvent un écrivain de seconde catégorie. Troisièmement, il y a un système de littérature dans lequel ceux qui tiennent le secteur de l'édition au prix, d'ailleurs, aux sélections et tout ça, ce sont des hommes très souvent qui tiennent ça. Donc nous, on essaye de dire non, il y a une littérature féminine, elle est de qualité comme celle des hommes est parfois supérieure. Par exemple, on regarde de près la composition des jurés, des prix. Pour dire, voilà, nous sommes là aussi, nous sommes un regard, nous observons ce qui se fait dans le monde pour que les choses changent, pour qu'il y ait une parité un peu partout, donc, en l'occurrence, en littérature. Mais en dehors de ça, on est aussi attentive aux jeunes écrivaines qu'on marraine, s'il le faut, on essaye de leur chercher des résidences. Donc voilà, ça c'est sur le domaine littéraire.
Gisèle Pinault, vous diriez aussi que c'est un combat d'écrire, de publier quand on est une femme plus important que quand on est un homme?
Eh bien, c'est vrai que par mon expérience, je peux dire que ça a été un combat de publier, de percer dans ce monde littéraire, dans ce monde de l'édition qui était très fermé. Je suis apparue moi dans les années 80, en fait, il y a longtemps maintenant, en envoyant tout simplement mes manuscrits par la poste aux maisons d'édition parisiennes. Il a fallu du temps pour que je sois reconnue. On m'a dit, bon, au départ, c'est pas parce que t'as écrit un livre que t'es une romancière. Je n'avais rien à prouver. J'ai simplement continué à écrire et puis à être publiée. C'est un combat. Il y a des thèmes qui sont abordés par les femmes qui me tiennent vraiment à cœur. Et j'écris sur ces combats-là, sur ces vies de femmes, dans leur intimité. Je raconte une histoire, j'ai beaucoup parlé d'inceste, de violence faite aux femmes. Les thèmes ont été abordés ici, à Orléans. De ces femmes qui sont dans l'exil, qui sont sans papier. C'est important pour moi, c'est ma façon de militer et de dire mon intérêt, de dire que je ne suis pas indifférente au sort des femmes, quel que soit le lieu où elles se trouvent. Et ça donne du sens à ma vie.
Fawzia Zouari, vous vouliez réagir?
Oui, Gisèle dit exactement le propos de l'appel d'Orléans qu'on va lancer demain et qui est que la littérature prend rendez-vous avec l'engagement pour les femmes. Parce que pendant très longtemps, on écrit, bien sûr, mais là, c'est un collectif, c'est une collectivité de femmes qui dit, voilà, nous nous engageons pour la cause des femmes. Je crois que c'est la première fois que, publiquement, on va le faire. Et juste une anecdote pour dire, effectivement, quand on écrit, comment on est pris ou on est interprété par les hommes. D'abord, on écrit, non pas parce que c'est pour raconter des histoires, mais parce qu'il y a un être au monde de l'écrivaine qui les raconte à sa façon. Sinon, on aurait milité autrement aussi. Et ça me rappelle que chaque fois je traverse la frontière en Tunisie, sur mon passeport tunisien, c'est marqué un mot qui, en arabe, c'est Ketiba, et le douanier dit toujours « Ah bon, vous êtes secrétaire chez qui ?» Parce que le mot Ketiba veut dire en arabe « écrivain » et secrétaire en même temps. Donc ça lui vient pas du tout à l'esprit que je puisse être romancière ou écrivaine. Pour lui, c'est une femme, c'est une secrétaire. Alors, vous êtes secrétaire dans quelle société ?
Ça en dit beaucoup sur le combat qu'il faut encore mener. Et puis aussi, ça pose peut-être aussi la question, ce Parlement de l'écriture en français, pas seulement de l'écriture des femmes, mais de l'écriture en français, parce que quand ce n'est pas la langue paternelle, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément facile d'écrire dans une autre langue que celle dans laquelle on a grandi, on a été élevé, et c'est un choix. Comment ça se passe à Madagascar pour vous, Michel Rakotosan?
À Madagascar, il y a un mouvement de fond qui est très fort d'écrivains malgachophones. Et par contre, j'ai été un peu marginalisée parce que francophone, parce que vue comme étant francophone, et j'ai dû passer ma vie à me défendre en disant « Attendez, on se calme, je suis aussi malgachophone, je fais des traductions, et il y a des traductions que les gens ne savent pas faire, et on se tourne vers moi. » Maintenant, je suis francophone parce que le produit d'une histoire, j'étais au lycée français, ma mère était francophone, ma grand-mère était francophone, elles étaient délettrées, etc. Là aussi, je signale que je suis incapable d'écrire sur les femmes. C'est aussi bête que ça, je l'avoue, j'ai honte. Parce que tout simplement, j'écris des livres sur la société, et la société, c'est les hommes. Ce n'est que maintenant que je vais écrire une femme, l'histoire d'une femme qui a mon âge, la 70, et qui est assise au bord de la route et qui regarde la vie et se remémore la sienne. Donc ça me permettra de faire le point de tout ce que les femmes ont vécu. Et maintenant, le combat, c'est de dire très simplement, la langue française n'est pas une ennemie. Ça peut être un complément à la langue malgache. Et quand on possède très bien, je dis bien très bien, sans imitation, les deux langues, qui sont deux langues très différentes, extrêmement différentes, avec un système linguistique, un système sémantique, un système psychologique profondément différent, ça vous permet de comprendre. C'est presque un discours post-colonial que je dis là. Ça vous permet de comprendre les deux sociétés et de naviguer dans les deux sociétés. Quand je n'arrive pas, quand la langue française ne saisit pas ce que j'ai envie de dire en malgache, je me tourne vers le malgache et je reviens vers le français. Vice-versa, tout le temps, en permanence. Quand je suis chez les paysans, je leur dis en malgache, hé, pecha, tsaratsmoy, moim tenkash neti, hein. Traduction, fais attention, hein, je suis malgachophone, ne te moque pas de moi.
Alors, il y a 3 ans, nous étions là avec vous, Fawzia Zouari. Nous avions fait déjà cette émission Littérature sans frontières. Maintenant qu'on a posé les bases, la philosophie du Parlement, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans concrètement? Comment ça fonctionne au quotidien? Quelles ont été les avancées?
Alors, il s'est passé beaucoup de choses, bien entendu. D'abord des publications. Nous avons publié 2 volumes. D'anthologie, donc d'écrivaines francophones, et ça quand même, ça peut servir les institutions, les chercheurs et le lecteur lambda. Il nous paraissait important quand même de faire la liste de ces écrivaines, c'est un travail qui n'a pas été fait. Nous avons suivi toujours l'actualité avec des positionnements, souvent écrits, hein, c'est ça notre métier, avec des manifestes, avec des tribunes que nous avons publiées généralement à partir de Paris, dans Le Monde, Libération ou ailleurs, et qui ont été traduits dans d'autres langues, par exemple le turc, l'arabe, etc., et publiés dans d'autres journaux. Donc chaque fois qu'on a pris position, par exemple pour des journalistes turcs ou saoudiennes ou autres qui ont été opprimés ou en prison, eh bien on a réagi, de même qu'on a réagi, par exemple, sur ce qui se passe en Afghanistan avec un appel de soutien aux femmes afghanes. D'ailleurs, demain, nous aurons une Afghane qui va nous témoigner sur ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Donc voilà, nous sommes là, nous sommes vigilantes. Et puis nous avons au quotidien, bien sûr, des contacts entre nous. Nous avons une réunion mensuelle où on se voit par visioconférence. Comme nous voulons aussi décentraliser les publications, nous voulons faire appel aux éditeurs du Sud. Et en l'occurrence, on a un livre qui sortira aux éditions Elisade à Tunis, sur le corps des femmes. On est en train de préparer un livre sur l'enfance des femmes, et là aussi on veut se décentraliser, trouver un éditeur peut-être en Amérique ou en Afrique subsaharienne. Voilà, le Parlement constitue maintenant un vivier aussi d'écrivaines pour tous ceux qui veulent faire quelque chose sur la littérature en général.
Littérature sans frontières.
Et nous sommes toujours à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc d'ailleurs, une combattante s'il en est qui a pris les armes au sens propre du terme. Orléans donc, où se déroule actuellement la nouvelle édition du Parlement des écrivaines francophones, qui milite avec ce mot d'ordre, liberté, égalité, féminité. Mais ces valeurs communes que vous défendez ensemble, vous les défendez aussi à titre individuel, chacune dans votre travail d'écriture, dans vos œuvres, dans vos actions. Par exemple, Gisèle Pinault, tous vos livres, vous nous l'avez dit tout à l'heure, sont traversés par la question de la femme, et en témoignent vos deux dernières publications. Adi, Soleil Noir, qui a paru aux éditions Philippe Ray et qui a reçu ce week-end le prix du roman historique à Blois. Et c'est un texte où vous faites le portrait d'Adrienne, une jeune fille qui, entre les deux guerres, quitte la Guadeloupe pour venir en France, dans ce Paris de la Belle Époque, qui connaît une explosion artistique exceptionnelle dans tous les domaines. Elle croise Picasso, elle croise Éluard, Lee Miller et surtout Man Ray, le peintre et photographe américain dont elle sera la muse et avec qui elle vivra 5 ans. Une femme qui a été oubliée par l'histoire d'ailleurs, Gisèle Pinault.
Adrienne Fidelin, magnifique personnage de roman, et elle a existé. Adrienne Fidelin, je l'ai rencontrée en lisant Autoportrait de Man Ray, où il revient sur toute sa période parisienne, son enfance également. Man Ray qui débarque à Paris dans les années 20, il va s'installer, il est attiré par Paris parce qu'il y a le grand mouvement des dadaïstes, surréalisme, il sait que la peinture se transforme et devient quelque chose d'extraordinaire à Paris. Il quitte New York et il va rencontrer Adrienne. J'ai été fascinée par cette histoire. Elle a été une muse oubliée, peut-être, parce que on a surtout mis en avant Kiki de Montparnasse ou Lee Miller, qui a été également une compagne de Man Ray. Mais ça a été aussi la première mannequin à poser, qui a été top modèle aux États-Unis dans un magazine américain. Et puis, il y avait cette liberté des mœurs. Il y avait beaucoup de libertinage dans ce mouvement des surréalistes. Et les photos qui restent en témoignent.
Et qui sont dans le livre, d'ailleurs, qui sont reproduites.
Dans le livre.
On voit quand même tous ces personnages en tenue très légère.
En tenue très légère, Lee Miller, Nuche Éluard, elles se tiennent dans les bras l'une de l'autre. Il y a des échanges de partenaires. Vous savez, Marcel Duchamp avait donné une définition de Man Ray, c'était joie, jouer, jouir. Et Adrienne Fidelin a complètement adhéré à ce programme de vie. Il faut savoir qu'Adrienne Fidelin a quitté la Guadeloupe parce que sa mère est morte pendant un cyclone terrible en 1928. 2 ans plus tard, son père meurt et elle arrive à 15 ans à Paris. Elle sait que le temps du bonheur ne dure pas. Elle a vu sa ville, son pays, balayé par un cyclone meurtrier. Elle a perdu ses parents, elle est orpheline. Qu'est-ce qu'elle a à perdre ? Elle va danser, c'est le bal nègre à la rue Blomet. Il y a tellement de photos d'Adrienne Fidelin. Je l'ai aimée, je l'ai découverte, je l'ai rencontrée à travers les photos de Man Ray. Et on voit qu'elle est photographiée avec beaucoup d'amour.
Si on n'a pas lu Man Ray, on découvre Adi grâce à vous, Gisèle Pinault.
J'espère. J'ai tellement adoré écrire cette histoire d'amour. Tellement adoré écrire cette histoire.
Alors, évidemment, c'est une démarche assez similaire que vous avez eue, Fawzia Azouari, avec votre dernier livre, Valentine d'Arabie, l'arrière-arrière-petite-nièce de Lamartine, qui était poète, écrivaine, artiste, qui a été le modèle de Rodin, entre autres surnommée la Muse pourpre, et qui, après la Seconde Guerre mondiale, est partie s'installer en Orient, où elle est morte au Caire en 1953, mais qui, en dépit des nombreuses traces qu'elle a laissées, de ses textes qui ont été traduits dans de nombreux pays, on l'a aussi un peu oublié, Fawzia Azouari.
On l'a beaucoup oublié. On l'a volontairement oublié. Parce qu'elle traînait avec elle la réputation d'une femme sulfureuse, scandaleuse, et après vendue aux Arabes. Elle était pour les uns espionne, pour les autres aventurière, mais jamais une femme libre. Et cette descendante des Lamartine, dont les Lamartine ne veulent plus d'ailleurs, ils disent quand on la voit, on entend parler de Valentine de Saint-Point, on fait le signe de la croix, qui était quand même une des femmes les plus connues de la Belle Époque, qui avait écrit énormément de choses, qui était à l'origine d'idées novatrices, qui reconnaissait l'homosexualité, qui était beaucoup plus que Colette, c'est-à-dire qu'elle l'a pratiquée publiquement et elle l'assumait. La notion de genre, par exemple, on la retrouve dans ses œuvres, qui a écrit le Manifeste de la Luxure. Enfin, c'était vraiment la scandaleuse de la Belle Époque, qui était pour la race occidentale. On parlait comme ça à l'époque. Et puis tout d'un coup, après la guerre, eh bien, elle change d'avis. Elle dit, moi, c'est l'Orient, ma solution, comme beaucoup d'autres, hein, que la Grande Guerre a détourné de l'Occident lui-même et a fait poser des questions. Mais où est le salut? Est-ce que c'est l'Occident matérialiste ou l'Orient spirituel? Et donc là, elle veut créer l'Union méditerranéenne entre l'Orient et l'Occident, et elle part en Égypte pour le faire, pour les intérêts de l'Orient, et les intérêts pour lesquels elle se battra jusqu'à la fin, puisqu'elle mourra là-bas, dans la misère la plus totale, et elle sera inhumée dans un cimetière musulman, dont je n'ai toujours pas trouvé la tombe.
Je vous fais confiance pour le trouver prochainement. Ce qui veut bien dire que c'est parce que cette femme était trop avant-gardiste, a dérangé beaucoup les hommes, qu'elle a été occultée de l'histoire officielle.
Il faut rappeler d'abord que voyager au début du siècle, c'était déjà une aventure en soi.
Et pour une femme.
Et pour une femme, c'est encore quelque chose de plus. Et pour une femme, donc, qui part en Orient, pas n'importe où, qui est quand même la terre sur laquelle il y avait beaucoup de préjugés. Parce que quand elle va débarquer en Égypte, Valentine de Saint-Point, qui n'est pas voilée, qui porte des décolletés et tout ça, c'est une révolution ambulante et les orientales vont regarder ça. Et elles vont écouter son discours d'émancipation. Et c'est ça qui, dans les faits, va faire aussi avancer la cause des femmes en Orient et dans le monde arabe. On le dira jamais assez, ce sont pas les voyageurs occidentaux, c'est les voyageuses, les militantes, les premières suffragettes qui ont été en Orient, qui vont faire avancer la cause des femmes là-bas.
Sortir les femmes de l'oubli, mais aussi aider les femmes d'aujourd'hui à sortir de l'ombre, les jeunes plumes littéraires à émerger. Est-ce que c'est aussi, par exemple, l'objectif de l'association que vous marrainez à Madagascar, Michel Rakotosson, l'opération Bokiko?
Oui, c'est exactement ça. Quand je suis arrivée à Madagascar, je me suis dit, attends, là, ta place, elle est là. C'est-à-dire que j'avais en face de moi des gens qui avaient peur. Et surtout, les femmes avaient peur de dire, avaient peur de se dire, avaient peur de porter la voix. Et très tranquillement, je me suis dit, OK, on va faire Opération Book pour apprendre aux jeunes, et ce sont des jeunes femmes qui ont débarqué, pour apprendre aux jeunes à dire tranquillement, sans élever la voix, ça, on n'est pas d'accord, ça, on n'est pas d'accord. Et maintenant, je les regarde absolument subjuguées. Il y a tout un groupe de jeunes femmes, je leur dis bonjour, qui sont capables d'aller dans des zones difficiles, très difficiles, dans lesquelles j'enverrai pas mon fils sans accompagnement, et elles partent, bon, bien sûr, on serre les dents pour qu'elles soient bien protégées, pour raconter des histoires, dire comment on écrit, et pourquoi on écrit, former des enseignants à l'écriture. Bon, moi, je les trouve extraordinaires. Elles se reconnaîtront. Et Opération Book, c'est ça. Et je crois... Et là, je passe la main.
Donc, c'est donner confiance aussi et transmettre à une nouvelle génération. Vous êtes en train de préparer les nouvelles écrivaines qui nous écoutent, qui peut-être n'osent pas parler, écrire. Et vous leur dites, mais si, vous avez tous les droits.
Absolument. Absolument, tous les droits.
Michel Rakotosson, tout à l'heure, vous nous disiez que vous ne saviez pas écrire sur les femmes, mais que néanmoins, votre prochain texte allait donner la parole à une femme. Est-ce que ça a un lien avec le Parlement des écrivaines francophones qui peut-être a aussi changé votre perspective ?
Absolument. Absolument, parce que j'ai toujours été entourée par des hommes écrivains, très peu de femmes écrivains, et c'est vrai que là, il y a eu un déclic. Bon, le prochain roman qui sort au mois de mai aux Ateliers des Nomades ne sera pas sur une femme, ce sera sur l'arrivée de l'armée coloniale à Madagascar. C'est une histoire terrible, mais bon, on en parlera en son temps. Mais le roman que je démarre maintenant et sur les femmes. Et je crois qu'effectivement, l'accompagnement de toutes ces femmes, tout ce que j'ai entendu, ont produit un déclic chez moi où on dit, t'as jamais osé parler de ça. Et non seulement maintenant j'ose l'écrire, mais je crois que j'ose le dire, que j'ai vécu ça et voilà ce que ça a donné.
De la même façon que Gisèle Pinault a déjà écrit un autre livre, après a dit Soleil Noir dont on a parlé tout à l'heure, il s'agit d'un roman qui s'intitule La couleur de l'agonie et qui raconte à 25 ans d'écart, à la fois en Guadeloupe, l'histoire d'une jeune femme violée par 7 garçons et l'histoire d'une jeune commissaire de police à Paris qui va être mutée dans son île d'origine et évidemment les deux histoires vont se retrouver. Ce sont deux femmes qui ont subi des violences très dures et que vraiment vous abordez de façon très frontale, Gisèle Pinault. Ça s'adresse peut-être aussi aux hommes, non ?
Effectivement, il y a encore des portraits de femmes, mais il y a surtout des portraits d'hommes, des portraits de violeurs. C'est une bande de jeunes garçons qui, à 16 ans, ont violé en réunion une jeune fille. Et ces jeunes garçons sont devenus des notables, des personnes qui passent à la télévision. Certains sont dans la politique, d'autres dans l'environnement. Il y en a un qui est chirurgien. Et les uns après les autres, 35 ans plus tard, vont commencer à mourir de façon un petit peu spectaculaire et bizarre. Qui tue ? On ne sait pas. Et je remercie beaucoup mon éditeur de m'avoir donné l'opportunité d'écrire ce polar. Et je me suis sentie très très proche de mon héroïne, de mes héroïnes,
oui,
puisqu'il y a aussi la commissaire Jessie Cantor qui fait un retour au pays puisqu'elle vivait dans la région parisienne. Elle débarque au pays avec son regard neuf, elle ne sait plus, elle ne connaît pas vraiment cette Guadeloupe là. Et on va descendre dans les bas-fonds, dans les quartiers terribles, on va être dans des milieux où il y a de la drogue et puis aussi dans les campagnes profondes où il y a de la sorcellerie. Voilà, c'est un petit peu le pitch de La couleur de l'agonie qui m'a vraiment enthousiasmée.
Fawzia Zouhari,
si vous voulez une nouveauté littéraire pour moi, ce sera au mois de janvier. Donc c'est un livre qui s'appellera Par le fil je t'ai cousu. Et pour rejoindre Gisèle, c'est pas seulement la liberté, c'est aussi se retrouver et se reconstruire même physiquement. C'est ça aussi l'écriture. Et dans ce livre où je raconte mon enfance réelle de 0 à 12 ans, en fait, je ne cherche qu'une chose, c'est retrouver mon corps. Parce que chaque fois que j'essaye de me souvenir de moi petite, c'est impossible de retrouver mon corps. Je retrouve quelques traits, des mouvements, mais mon corps n'est pas là. Parce qu'en fait, par une formule magique qui existe au Maghreb, qu'on m'avait appliquée d'ailleurs, moi je fais une partie d'une génération, on appliquait ça, il y avait un rituel qui était censé fermer l'hymen des filles pour qu'elles restent intactes et que les hommes, à leur approche, deviennent impuissants. Et donc c'est une façon de nous faire perdre notre corps, en fait, mentalement et psychologiquement. Et voilà, j'essaye de retrouver ce corps, donc ce physique-là, à travers l'écriture. C'est encore un miracle de la littérature, tout simplement, et de l'écriture.
Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Je voudrais signaler que toutes celles qui nous entendent peuvent en effet aller sur le site du Parlement des écrivaines francophones, qui est un site actualisé régulièrement, où vous dialoguez, où il y a vos textes, où vos interrogations et toutes les actions que vous pouvez mener les unes les autres. Je dis aussi à nos auditeurs et nos auditrices qui peuvent retrouver toutes les références des livres que nous avons évoqués sur la page internet de Littérature sans frontières où est aussi disponible le podcast de cette émission. Et merci à la ville d'Orléans de nous avoir accueillis aujourd'hui. On espère vous retrouver toutes très vite ici ou ailleurs. Merci beaucoup.